Allez-vous à table. Bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été. Aujourd'hui, alors que les forçats volontaires du Tour de France font route vers l'Izoard, et bien notre grande table d'été se métamorphose en un assemblage de tubes ornés d'une paire de cornes à sa proue et d'une selle de cuir à glisser entre vos cuisses, et cela pour mieux sucer la roue de l'écrivain et ancien coureur cycliste Olivier Aralambon. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, dans sa deuxième partie, notre grande table se réduira à un simple parallépipède de colle et de papier, un objet piégé à mettre entre toutes les mains, comme s'y emploie en ce moment même la grande manifestation Partir en livre, à laquelle nous invite le directeur du Centre National du Livre, le président du Centre National du Livre, Vincent Monadet, bonjour.
Bonjour.
Et les illustrateurs Judith Guéffier et Marc Dagnon, bonjour.
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 Mais à présent, sentez fondre sur vous la horde des pillards en casquette et cuissard, le monstre, comme l'appelle Olivier Aralambon, dans son récit, son essai qui se dévore autant qu'il nous dévore, le coureur et son ombre.
Maintenant, c'est le coup de théâtre. Le coureur qui caracole seul en tête de la course, qui a déjà creusé quelques secondes d'écart avec les trois autres, n'est pas Ludo. Et c'est précisément celui sur lequel les apparences interdisaient de jouer le moindre copec. De fait, il excipe tous les attributs de la douleur. Mâchoires écartelées, langue dehors, rides profondes au coin de l'œil, chair luisante, il s'arc-boute sur ses jambes bandées. Mais il en devient beau, comme s'il avait enfin fait fondre ses limites et tous les angles. De sa bouche baie s'échappe le trop-plein des images dont il repeint l'intérieur de sa tête. La paroi de ce crâne en cet instant doit ressembler au plafond d'une chambre nuptiale renaissance, toute bousculée d'allégories sanglantes, petites boucheries de nuages et de colère. Vous jureriez qu'il ne respire même plus. Il sent, lui, et ça le désespère car il voudrait rouler encore plus vite, se débattre au creux de son ventre la petite boule chaude de l'étouffement. Il voudrait s'en défaire, la faire remonter et la sortir, mais rien à faire, elle bute sur le plexus. Le souffle est un petit animal qu'on ne peut pas cracher.
Olivier Aralambon, vous êtes un cycliste ad vitam, et vous êtes écrivain, et à ce titre, tout du moins, vous êtes forcément échappé solitaire, et vous nous secouez avec vous sur le grain de la route dans cet essai donc écrit à l'occasion à la première personne, mais aussi dans toute sa dimension collective avec le peloton ou avec des personnages comme ce Ludo qui termine non pas à la première place, un critérium nocturne, c'est dans Le coureur et son ombre, votre nouveau livre publié chez Premier Parallèle, et d'emblée avec la langue un peu pendante sur le côté, on sait pas si c'est épuisé par l'effort ou pour mieux tromper le rival dans la dernière ligne droite, j'aimerais qu'on parle de la langue, de l'écriture.
Oui.
Les commentateurs sportifs sont, et vous le dites d'emblée, souvent figés dans une petite série de clichés. Racontez-nous ce qu'il en coûte, ce qu'il faut pour s'arracher à ces clichés, comme on s'arrache du peloton. C'est le même effort surhumain, peut-être inhumain, qu'on doit déployer sur un vélo.
Est-ce qu'il est comparable à Oui, il est sans doute comparable à celui qu'on déploie à vélo, dans la mesure où il ne s'agit pas de viser quoi que ce soit d'exact, mais plutôt une forme de justesse. On parlait du commentaire sportif et des clichés. Il me semble que c'est pas tant des clichés dont il s'agit, et les clichés qui interviennent dans tous les discours, je veux dire, que d'une sorte de petit piège qui doit sans doute avoir un rapport avec quelque chose de très général dans notre époque, et qu'une expression que j'aime beaucoup, qui est d'Olivier Rey, appelle nombrification du monde. Je crois qu'on fige la performance à travers une série de chiffres et que le commentaire sportif est tombé dans ce piège-là, en bonne partie. Et la langue associe davantageux par rapport aux chiffres qu'elle ne fige rien, qu'elle reste ouverte toujours. On peut imaginer la phrase la plus précise et la plus serrée du monde, il y a toujours une ouverture. La vérité de l'effort cycliste, en l'occurrence, puisque c'est celui-là que je décris, ne se circonscrit pas, à mon avis.
Oui, précisément, vous y insistez d'ailleurs, le cyclisme, il faut renoncer d'emblée quand on entre le coureur et son ombre à y comprendre quelque chose. Ça peut pas être un objet de savoir, la course cycliste en particulier, c'est surtout pas un sport et du coup, il faut aller chercher enfin, vous y insistez aussi, vous dites que c'est pas la force qui vous fait remporter des courses, à part peut-être quand vous êtes tout jeune.
Oui.
De la même façon, c'est pas c'est l'efficacité du langage, il faut aller chercher ailleurs, dans la ruse aussi. Vous avez rusé avec la langue pour essayer d'approcher cette expérience?
Rusé avec la langue, sans doute. Je ne sais pas si rusé est le bon mot. Il faut être... Ce dont j'ai pas été capable à vélo, moi, c'est... Je pense modestement, contre les apparences peut-être, que c'est pas par défaut de force que j'ai été un mauvais coureur, c'est par défaut de délicatesse et de subtilité. C'est-à-dire, pour rouler vite à vélo, il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui ne savent pas. Parce que ça dépend d'une série. On pense toujours que le geste du cycliste n'existe pas parce qu'il est engrené à celui de la machine, que la machine le fait plus que le suggérer, elle le dessine et qu'il suffit d'appuyer sur les pédales pour être bon. Et ça, c'est très faux. Il faut être capable d'une série d'ajustements perpétuels. Je parle de la disposition du corps, hein, de perpétuels, si délicats que d'une part, ils sont invisibles de l'extérieur, mais que même quant à soi-même, tout le monde ne les aperçoit pas en soi. Voilà. Et moi, de ça, j'étais pas suffisamment capable. C'est pour ça que je tiens à parler d'eux derrière la croûte, de boue, de sueur ou de je ne sais quoi, de force. Je tiens à parler d'eux comme de danseurs et de gens délicats, parce que même pédaler, c'est créatif, et même les coureurs cyclistes sont des sujets.
Alors on l'entend, hein, il y a de la chair, il y a même de la viande, dites-vous, dans le vélo. Il y a de l'intelligence à n'en pas douter. Et puis il y a toutes ces lignes, toutes ces trajectoires. On est avec deux illustrateurs, Judith Gueffier et Marc Dagnon. Marc Dagnon a déjà d'ailleurs sorti son petit carnet de dessins. Si on vous dit vélo, si on vous dit cycliste sur sa monture, Marc Dagnon, Judith Gueffier, vous commencez par dessiner quoi ? Les roues, le cadre ?
Un vélo, c'est super difficile à dessiner, un cycliste encore plus. Mais les positions de coureurs en danseuse ou de enfin, c'est une épure terrible. Il y a pas un pet de gras. Enfin, ça permet aucune erreur, quoi. Mais je suis assez sensible à ce qu'a dit
Olivier
cette histoire d'ajustement permanent. Cette nécessité d'être toujours à l'écoute de ce qui se passe, en tout cas quand je suis derrière mon crayon ou derrière mes pinceaux ou avec mes couleurs, je crois que c'est ce que je cherche aussi, quoi.
Vous méfiez des contours et vous regardez sous votre coude comme le cycliste pour voir ce qui arrive derrière
ou ce qui arrive devant.
Judith Gueffier, si vous deviez dessiner, vous n'avez pas encore sorti votre carnet à un cycliste ou un vélo, vous commenceriez par quoi? Parce qu'il y a toujours le premier trait dans une illustration.
D'abord, j'aurais tendance à fermer les yeux et à me projeter avec le coureur pour essayer de vivre avec lui un peu sa dynamique, sa posture. C'est un peu comme ça que j'ai tendance à travailler. Donc c'est d'abord une phase intérieure. On va essayer aussi de vivre un peu dans son corps cette posture. Mais c'est vrai que je te rejoins que dessiner un vélo, c'est vraiment pas facile.
Et quand vous êtes à vélo, quand vous pédalez, vous dessinez aussi dans votre tête ?
Non, mais par contre, on peut parler de notre collègue Carole Schex qui a fabriqué un triporteur et elle dessine sur ce triporteur en vélo. Carole a fait cette fresque géante livre dont on va parler tout à l'heure.
Cette palissade dont vous êtes les co-auteurs avec Carole Schex, Judith Gueffier et Marc Dagnon. Je vous voyais enfourcher le triporteur, Marc Dagnon.
C'est vrai que moi, tous les matins, je fais un peu de vélo. Ah. Mais c'est justement pour se mettre en route.
Mais est-ce que c'est un vélo de course? Parce que sinon, c'est pas un vélo, vous direz.
Non, bon. Oui, alors je fais pas du vélo, alors. Voilà.
Olivier Alambon. Là, il est question de posture dans les mots des illustrateurs, des dessinateurs et auteurs que sont Judith Gueffier et Marc Dagnon. Vous y insistez aussi et j'aimerais savoir quelle posture vous avez adoptée, parce qu'il y a chez Thomas de Quincey le meurtre élevé au rang des beaux-arts. Vous, c'est le cyclisme élevé au rang des beaux-arts, précisément, comme disait Daniel Arras, parce qu'on n'y voit rien. Mais alors, pour y voir quelque chose, pour tenter d'apercevoir quelque chose, pour écrire ce coureur et son ombre, quelle est la position que vous avez choisie? C'est la position en danseuse? C'est le nez dans les cocottes? Ou au contraire, il faut inventer encore autre chose?
C'est plutôt le nez dans le guidon, c'est-à-dire que, et au sens très littéral du terme, enfin très 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 mimétique, j'ai tendance à et j'imagine beaucoup de coureurs sont comme ça, à retrouver à sentir ressurgir mon corps de coureur dans toutes les situations de la vie. Et quand il a été question, après avoir couru quelques années, de travailler, d'étudier, de lire des livres difficiles, je posais mes coudes autour du livre, sur deux carrés en mousse qui me venaient d'un prolongateur de cintre, parce que ce besoin de sentir la tension du corps est important pour moi. Et ça m'aide à comprendre, je crois. Ça m'aide à batailler avec le texte. Et j'ai eu l'impression d'apprendre à lire à 35 ans, moi, quand j'ai ouvert Merleau-Ponty, sur des textes que sur lesquels je glissais complètement à la première lecture et où je finissais par attraper un petit truc en repassant une fois, 10 fois. Mais c'est un effort physique, ouais.
Il y a ces textes, ce passage très beau dans votre essai, Olivier Alambon, où on est avec les coureurs après la course, quand ils cherchent à passer à autre chose, à se détendre, et pourquoi pas ouvrir un livre sur lequel eux aussi, leur intelligence, leur regard dérivera. Il y a toujours la course qui est dans leur corps et qui est à l'intérieur de leur tête et qui accompagne cette lecture. Vous, c'est Merleau-Ponty, alors qui vous a appris à lire, dites-vous, Olivier Alambon. Mais Vincent Monadet, vous qui défendez le livre depuis votre expérience de libraire et aujourd'hui à la tête du Centre National du Livre. Vous avez publié cette année « Comment faire lire les hommes de votre vie » pour essayer de pousser les hommes à lire davantage, comme le font les enfants et les femmes, davantage statistiquement, si on parle de statistiques. Il y a des livres où il est question de cyclisme, peut-être la bicyclette bleue, qui pousse les hommes à la lecture.
Très peu à voir avec le cyclisme, pour le coup, et plus avec le fait que le vélo permet de faire des galipettes dans le foin un peu plus loin. C'est une littérature, pratiquement, le cyclisme. Il y a Blondin, évidemment.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, il y a Fotorino, avec le petit éloge de la bicyclette et son bouquin sur le Tour de France, qui est extraordinaire. Il y a une BD sublime sur la geste de Coppi. Coppi, qui était vraiment un des plus grands cyclistes de tous les temps, à mes yeux. Il y a Duluc, qui a écrit un très bon bouquin aussi. Vincent Duluc, qui est, je crois, le rédacteur en chef de l'équipe. Et il me semble, je suis à peu près sûr que c'est lui qui a écrit aussi un très beau bouquin sur le cyclisme. Non, c'est... En fait... Pour moi, qui fais du vélo d'appartement en pensant que je suis en train de me faire...
Alors devant la télé, dans la montagne...
Je suis en train de me faire le ventoux et de décrocher tous les gens que j'ai adulés. Le cycliste, ça génère vraiment une littérature de l'effort, de la violence et de la geste. C'est une littérature totalement héroïque, c'est une littérature quasi shakespearienne. Mais pour toute personne qui a vraiment regardé le Tour de France... De la mort de Simpson dans le Ventoux. Alors là, moi, j'étais trop jeune, mais je l'ai revu.
1967, on y reviendra. Il y a 50 ans, presque jour pour jour.
Au décroché de Biarneris, je crois, dans le Ventoux, où il va justement, il fait 3 décrochés de suite. Il décroche Pantani, il décroche l'anglais, qui est de l'américain.
Otakam, manifestement. Ouais. Oui, il a fait une montée. Otakam, assez légendaire, oui.
C'est pas mal, on a Olivier Alambon en consultant, comme on dit, sur les chaînes sportives.
Il fait 3 démarrages successifs et il décroche successivement tous les grands. De la mort de Pantani, tragique. Un peu inexpliqué, sous drogue, alors que voilà. Non, c'est une geste tragique, le cyclisme, beaucoup plus que d'autres sports. C'est-à-dire, moi, je prétends que le football est beaucoup moins intéressant en littérature que le cyclisme.
Mais alors, si le cyclisme a inspiré la littérature, il a aussi inspiré la chanson. Il y a le fameux Rimini des Wampas consacré à ce pirate de Pantani, mais il y a un autre titre des Wampas.
Encore
Jalabert, signé les Wampas. Jalabert est devant, Jalabert est derrière. Olivia Ralambon, aveuglée que nous sommes par la lumière, par la victoire, par le jaune éblouissant d'un seul maillot, on ne voit pas que, plutôt que la gagne, plutôt que la joie, selon vous, c'est le mal de vivre qui meut les coureurs. Vincent Monadet parlait de Shakespeare, le cyclisme, et votre récit, votre essai sont, comme la vie, au fond, une tragédie.
Oui, absolument. Là encore, on ne parle de sport qu'en termes affirmatifs et purement joyeux, etc. Tout ça me semble un peu léger
pour le coup.
Et bon pour la santé, ouais. Je ne sais pas ce qui est bon pour la santé. Je ne sais pas non plus ce qu'est la santé. Bien malin, qui pourra me le dire. Et il me semble évidemment que mon entreprise à moi, ou ma tentative, ou mon désir, c'est de rendre une épaisseur à ces personnages que sont les coureurs, c'est-à-dire une épaisseur psychique, vivante, réelle. Et bien sûr, ils sont comme nous tous, c'est-à-dire que la volonté d'un coureur qui monte un col au meilleur de ses moyens, c'est-à-dire qui se tient sur la frange d'effort, qui sait pouvoir supporter sans craquer complètement, ce qui est un exercice très délicat et très angoissant. Cet effort-là n'est pas seulement fait de volonté pure, affirmative et explicite. On est traversé d'émotions, de souvenirs. Enfin, je veux dire, tout le monde en a. Et pour avoir un rapport à son corps qu'il entretienne chaque jour dans un exercice qui peut être quand même assez douloureux, il est pas rare que les coureurs cyclistes soient des gens aussi mélancoliques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fameuse sentiment de perte qu'on a en se sentant être venu au monde et qu'on cherche à combler. Ça encore, voilà la distance au monde qui autorise notamment la position objective. Le coureur cherche à la combler, à être présent. Voilà. Et bien sûr que c'est une histoire de mal de vivre, bien sûr.
Et ce qui fait
ça n'intéresserait personne.
Ce qui fait l'intérêt justement de votre essai, le coureur et son ombre, Olivia Ralambon, ce qui fait son épaisseur, ce qui fait également toute l'émotion qu'on a à le parcourir et à ne pas le lâcher de chapitre en chapitre avec cette grande fluidité, c'est le fait que vous racontez aussi depuis vos premiers émois devant votre premier vélo. Et de fait, quand vous décrivez votre premier vélo, ce qu'il y a d'abord, c'est non pas ces lignes et ces trajectoires qu'on évoquait avec Judith Gueffier et Marc Dagneau, mais c'est un cliquetis. Et puis ensuite, il y a le claquement net des cales, c'est donc du son.
Oui,
dites-nous un mot du son des bruits du vélo.
Du son des bruits, il y en a beaucoup et de plus en plus peut-être, parce que, notamment pour une raison technique, ce qui est venu. On entendait par exemple le son, le sifflement des boyaux sur le sol. Ça, quand on monte en danseuse, il y a une espèce de réponse binaire et sonore qui s'entend. Il y a la chaîne quand on change de braquet. Tout ça résonne de plus en plus parce qu'aujourd'hui on utilise des jantes carbone très volumineuses qui donnent une sorte de caisse de résonance au vélo, presque comme un instrument de musique. Il y a un passage où j'évoque un champion belge dans Paris-Roubaix. Et ça, c'est en tant que spectateur, c'est une des dimensions importantes, entendre talonner la jante sur les pavés et la chaîne taper contre le cadre, c'est partie prenante de l'émotion. Ouais.
Oui, et puis les mecs couverts debout, enfin, en tant que spectateur, Paris-Roubaix, c'est pareil, c'est un mythe, je sais pas, c'est marathon, quoi. C'est les mecs couverts debout, qui tombent, qui chutent, les vélos qui crèvent.
Oui, voilà, c'est beaucoup d'adresse et de savoir-faire, ouais.
Et à cet égard, vous évoquez la boue, et vous, dans cet essai, Le coureur et son ombre, Olivia Ralambon, vous évoquez aussi la dimension presque archaïque du vélo à partir du moment où il a été inventé, où il a été conçu. Il a quelque chose d'imperfectible,
oui,
il est parfait pour l'éternité et un jour, mais donc depuis presque des siècles maintenant.
Oui, depuis la fin du 18e, enfin il y a eu la Draisienne d'abord, mais enfin depuis une bonne centaine d'années, il n'a guère bougé. Oui, on a rajouté le dérailleur dans les années 30, tout ça, mais le principe est toujours le même. Et j'ai été sensible à un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, Marc, c'est la question d'épure, parce que le vélo, l'objet est imperfectible, à peu de choses près, hein, en son principe en tout cas, et il s'agit pour le corps du coureur d'être de la même manière. Et ce que je m'applique à voir dans les courses cyclistes, à travers toute une épaisseur ou une gangue de circonstances plus ou moins problématiques, on parle que de dopage ou glauque, on parle beaucoup de dopage en tout cas, moi ce que je m'applique à voir, c'est pas forcément le coureur ou son corps, mais le mouvement lui-même à travers l'événement.
Mais si on revient à la façon que vous pourriez ou que vous avez dans votre carnet, Marc Dagneau et Judith Gueffier, de saisir avec le dessin, par le geste de l'illustrateur, de l'illustratrice, le cycliste et sa monture, puisqu'on parle de cette épure, avec la boue que m'a jeté Vincent Monadet à l'instant, il y avait toute cette cette dimension archaïque qui me venait. C'est quasiment comme de dessiner dans la grotte Chauvet. Il y a quelque chose de cela aussi à saisir dans cette épure.
Bah forcément, de façon, ce qu'il faut saisir, c'est les liens. Et là, je pense que c'est le lien entre le vélo et le coureur, et à la limite entre les coureurs aussi. Mais c'est vrai que les roues qui tournent. Enfin, je veux dire, moi, je pense à Franquin dans l'album de Spirou qui s'appelle La Mauvaise Tête, où il y a une épreuve. Enfin, voilà, il y a une course cycliste qui est formidable.
À Champignac.
Champignac.
Et voilà. Enfin, je veux dire, je pense que j'en ai des frissons rien que d'y penser. Mais cette manière de traiter justement le mouvement des machines et comment s'entraîner par le mouvement des corps. Moi, j'ai un peu de mal à imaginer que ce soit dépassable graphiquement. Voilà.
Judith Gueffier, vous vous êtes aventurée, vous avez osé raconter des histoires qui mettent en scène des vélos et qui font le lien, parce que le vélo nous emmène quelque part aussi.
Pas tant, et c'est vrai que des dessinateurs dont on peut voir la trace et le geste et la dynamique, comme tu peux parler, Marc, a son importance pour raconter ce genre d'histoire. Moi, je suis vraiment dans une autre manière de travailler, un peu plus figée dans la couleur. Et des fois, je peux justement regarder avec envie ces autres dessinateurs qui vont être dans cette dynamique du geste que je trouve fascinante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours plaisir aussi à regarder dans les carnets les uns des autres, parce que dans les carnets de croquis, justement, il y a cette spontanéité du trait. Et là, par exemple, je regarde Marc qui dessine dans son carnet, qui vous a dessiné, Olivier et Vincent, à la manière du sprinter pour capter l'essentiel. Et ça, c'est fascinant.
Olivier Ralambon, là, le nom de ce petit village français fameux où le tour est sans doute passé plusieurs fois, de Champignac, donc pour les aventures de Spirou et Fantasio dessinées par Franquin, est sorti de la bouche de Marc Dagneau, puisqu'on est l'été et que d'aucuns ont la chance de quitter les villes où la majorité des Françaises et des Français vivent aujourd'hui. Vous y insistez, le vélo a à voir avec la campagne, et ce serait peut-être un moyen à nul autre pareil de toucher la campagne.
De toucher le paysage, quel qu'il soit, même urbain d'ailleurs. Même urbain, c'est évidemment à vélo, on est dans une forme de déplacement assez particulière. On va plus vite qu'à pied, en règle générale, et beaucoup moins vite qu'en train ou en voiture. Donc on est dans un rapport à l'espace qui est tout à fait singulier. Ouais. Et je crois que le paysage nous est pas tant extérieur qui s'imprime à l'intérieur même du corps ou de la boîte crânienne. Il est facile d'imaginer que l'effort vous isole un peu, mais vous isole, ça ne veut pas dire que ça vous coupe du paysage, au contraire. J'ai souvent pensé en écrivant à cette belle chanson de Bachung où il dit « J'ai passé la saison dans cette boîte crânienne ». Et il s'agit de ça, il s'agit vraiment d'avoir le monde en soi, quoi. Alors, le monde en soi.
Mais alors, le paysage défile quand on est à vélo. Il y a une haie de peupliers dans vos souvenirs d'enfance qui étaient en face de la fenêtre de votre logement, de votre maison, de votre appartement. Mais il y a aussi des paysages que vous avez pu saisir et qui comptent justement dans ces premières sorties avec votre oncle quand vous aviez une goutte gelée au bout du nez.
Oui, en l'occurrence c'était les paysages de la vallée de Chevreuse, mais c'était les champs nus qui s'étalent, les fumées maigres qui montent à la verticale dans la désolation, comme ça, dans un horizon tout à coup vierge, quand on a vécu qu'en ville, comme c'était mon cas. Et oui, ça a été une... Il y en a quelques-unes, sans doute, dans la vie de tout un chacun, ça a été une de mes premières renaissances. Ouais.
Marc Dagneau ?
Le rapport au paysage et au mouvement, je veux dire, que ça soit qu'on marche ou qu'on pédale, j'ai l'impression de faire arriver le paysage à chaque pas ou à chaque coup de pédale. C'est-à-dire cette dynamique, cette perception du paysage qu'on a, qu'on est en mouvement, et encore plus en voiture sur les autoroutes ou avec le TGV. C'est une dimension que moi je trouve intéressante, en tout cas qui m'a beaucoup intéressé et qui m'intéresse encore. Et que, une fois de plus, c'est le lien. Quand on donne un coup de pédale sur son vélo, hop, qu'est-ce qu'il y a derrière le virage? Qu'est-ce qui arrive derrière le champ, derrière le bois? Comment l'arbre se présente à nous plus on s'approche de lui? Le graphisme de la route et encore l'épure et encore le fait d'être aspiré par son propre mouvement et une idée de ce qu'il y a devant, pas derrière, mais la projection, comment on se projette dans ce qui advient.
Oui, puis une façon de se remplir aussi, c'est-à-dire qu'on s'avance vers le paysage et c'est pas tant qu'on en laisse derrière soi, mais qu'on s'en emplit plutôt qu'on l'accumule en son corps, en ses muscles.
Et puis tu le vois, enfin, quand tu marches ou quand tu fais du vélo, tu le vois, le paysage.
On l'éprouve,
Bien sûr, moi je prends l'exemple du manga de Taniguchi, L'homme qui marche, ou du dernier Tesson dans Les chemins noirs. La marche aussi produit des œuvres littéraires magnifiques parce que c'est d'un seul coup l'homme dans la nature qui prend le temps, qui la voit, qui la décrit, qui la ressent. Je pense que le vélo, c'est pareil. Il y a une capacité à ressentir qu'il n'y a pas, évidemment pas pareil dans une voiture ou dans un TGV.
Et alors, si on dévore le paysage, on s'en emplit, comme vous le dites, en marchant, mais plus encore, peut-être avec plus d'intensité encore, quand on fait du vélo, Olivier Aralambon, pour dévorer ce paysage toujours plus, eh bien, on dévore d'autres produits pour se dévorer soi-même,
voilà. In fine. Parmi les clients du docteur Mabuse, on a cité hier le nom de Frank Vandenbroek. Le jeune champion belge a été suspendu illico par son équipe. Et ce matin, il s'est expliqué devant les journalistes. Vous allez l'entendre, il est désarmant de naïveté. Il reconnaît qu'il était client du docteur Mabuse.
Bernard Sainz m'a fait des injections. On a produit que, en plus des gouttes homéopathiques, m'a fait quelques injections. Naturellement, je lui ai demandé de quoi il s'agissait et il m'a répondu qu'il s'agissait uniquement de produits homéopathiques et de produits tout à fait licites et que je devais lui faire entièrement confiance. Bon, moi, je dois reconnaître que j'avais peur de l'indisposer et de perdre son concours. Et encore, je dois reconnaître qu'il exerçait sur moi une telle influence. Donc je voulais lui faire confiance, mais ça ne m'a pas conduit à chercher à en savoir plus. J'ai encore la conviction que les traitements de M. Sainz étaient homéopathiques et naturels, comme il me l'a dit, malgré aujourd'hui un peu mes doutes et la peur que j'ai de savoir ce qu'il m'a fait. J'espère de ne pas être trompé, je dis, mais j'ai des doutes et je voudrais bien savoir l'analyse des produits saisis pour savoir si je n'ai pas été abusé.
Frank Vandenbroek, coureur belge, qui est le héros tragique précédent essai, votre premier roman, Olivier Aralambon, Le versant féroce de la joie, qui était publié en 2014. Frank Vandenbroek convaincu de dopage, et il y a évidemment la question du doping qui apparaît dans Le coureur et son ombre, et dans l'actualité, on sait que le chanteur Alain Souchon a fait des déclarations fracassantes, mais pour vous, le dopage, et vous y êtes essayé avec quelques amphétamines, c'est d'abord un acte purement gratuit, qui n'a rien de mercantile ou pour favoriser la carrière. Vous dites, les coureurs se dopent parce que c'est bon.
Oui. Alors le dopage, évidemment, c'est toujours un sujet délicat. Il me revient toujours de préciser et d'y insister que je ne réhabilite pas le dopage ou que je ne le préconise pas.
La défense et illustration du dopage, votre essai.
Non, pas du tout.
En revanche, ça fait partie de la course cycliste elle-même, fondamentale.
Voilà des gens à qui on demande depuis plus de 100 ans de parcourir au début 400 bornes d'un coup, par tous les temps, de jour comme de nuit. Et puis à qui on demande de rouler très vite et pour utiliser le mot que tout le monde a à la bouche, de se dépasser. Après quoi, moi je m'étonne simplement qu'on s'étonne que ces gens-là n'aient pas de limite. C'est-à-dire que ensuite que ça pose un certain nombre de questions éthiques, sanitaires, etc., qui demandent à être considérées sérieusement, ça j'en disconviens pas du tout. Je dis simplement, si ces gens étaient pondérés et raisonnables depuis le début, ils ne seraient pas coureurs cyclistes.
Voilà, et on les regarderait pas et on les aimerait pas autant avec autant de passion.
Non, absolument, absolument. Et quand encore une fois, quant au dopage, oui, en effet, ça se condamne. En effet, il y a des histoires sordides, etc. Mais il me semble qu'il faudrait être capable de traiter la question, de résoudre ces problèmes d'une façon un peu plus discrète et de pas se laisser obséder.
Mais il y a même une dimension philosophique, et c'est ça qui est assez fascinant dans l'approche que vous avez de cette question, en particulier dans votre essai, Olivier Aralambon, quand vous en venez à Lance Armstrong, que vous comparez à Actéon, fameux mythe de Diane et Actéon, où vous rappelez que ce Lance Armstrong ancestrière qui a un visage de mort-vivant quand il franchit la ligne, que pour vous, c'est un mort qui franchit la ligne, c'est que comme Actéon, surprenant, rappelons-le, Diane au bain avant de se faire dévorer, métamorphoser en cerf et dévorer par les chiens de la déesse, eh bien le coureur cherche sa mort.
Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que le dépassement, si ce n'est faire exploser les limites de sa propre individualité. Et la fable d'Actéon, moi je m'attache à la lecture qu'en a faite toute une philosophie renaissante, néoplatonicienne, dans les dialogues de Giordano Bruno. Alors je ne pourrais pas vous parler en philosophe très précisément, parce que ça fait quelques années que je n'ai pas mis sérieusement le nez dans les textes, mais chez Bruno, Actéon est dévoré se transforme plutôt en cela même qu'il poursuivait, c'est-à-dire il y a une sorte de désir de dépassement ou de connaissance du divin qui lui est fatal. Et si on parle de se dépasser par le haut, parce que n'est-ce pas, on peut se dépasser par le bas, on peut se vautrer dans la bestialité, et dans la bêtise, dans la brutalité, quel que soit l'exercice qu'on choisisse, qu'on soit violoniste, artiste, peintre, il s'agit bien d'y jouer sa vie en entier, c'est-à-dire il s'agit bien de prendre le risque de s'y perdre. Et les coureurs, un jour, commencent à se doper parce qu'ils ont touché, entreaperçu une forme d'état de grâce qu'ils veulent leur reconduire. Et ça me paraît très humain et très touchant, au fond. Ce qui veut pas dire qu'il faut laisser faire n'importe quoi et les gens se suicider. C'est pas du tout mon propos.
Vincent Monadet, vous le disiez tout à l'heure, vous avez pu être sensible au destin de Tom Simpson, qui est mort sur le Mont Ventoux, donc il y a 50 ans, après avoir bu du cognac à défaut d'eau, parce qu'on donnait pas d'eau aux coureurs, ils avaient pas de bidon, il avait du cognac et du tonédron, donc des vitamines, dirons-nous, dans le sang. Là, on diffuse en ce moment, le matin, sur France Culture, une série d'émissions sur Cézanne, qui est mort quasiment le pinceau à la main, et Philippe Solers, l'écrivain, de dire que c'était une mort réussie. C'est une mort réussie, la mort de Tom Simpson sur le Ventoux ?
Non, parce qu'elle arrive trop jeune, contrairement à celle de Cézanne, mais c'est une mort mythique, de toute façon, ça c'est sûr. Blondin disait que dans les tout premiers Tours de France, donc on est au tout début du 20e, hein, de mémoire.
Oui, tout à fait.
Les gars partaient en vélo avec leur chambre à air, parce que c'était eux qui changeaient la roue, et leur coup de fort. C'est-à-dire que quand ils avaient un coup de fatigue, il y avait un coup de cognac, un coup de calva, un coup de qui leur permettait de redémarrer. Donc
un peu de cocaïne, c'est ça par Albert Londres.
Je prends des précautions, mais le dopage est consubstantiel en tous les cas à l'épreuve du Tour de France, parce que je pense, et c'est ce qui la rend fascinante, qu'elle n'est pas humaine, qu'elle est extra-humaine. Olivier parlait de dépassement, moi je pense que c'est demander à des gens quelque chose qu'ils ne peuvent pas normalement faire. Et il y a toujours eu du dopage dans le cyclisme. C'est une catastrophe.
Quand on cherche à leur demander de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire.
C'est une catastrophe, mais par ailleurs, je suis désolé, moi, quand je vois un joueur de foot arriver à 22 ans dans un club, très bon joueur déjà, grand, fluet, et 6 mois après, il fait 3 fois sa taille, enfin 3 fois son poids en muscles, et on nous dit, ah ouais, c'est un club où on fait beaucoup de musculation. Je pose la question de cette musculation fabuleuse qui permet à quelqu'un de tripler de volume. Le sport professionnel est gangréné par le dopage parce qu'il est gangréné par la performance qui doit aller toujours plus loin. Et c'est ce que disait Olivier au début, le chiffre et le nombre.
Marc Dagneau ?
Mais je veux dire, le sport, il n'est pas en dehors de la société, du reste de la société. De toute façon, il y a une hypocrisie par rapport à tout ce qui est utilisation de drogue. Enfin, je veux dire qu'on voit les valeurs qui sont mises en avant dans la communication ces derniers temps. L'addiction, c'est... Il y a des trucs positifs.
Mais en plus, c'est très vrai que des gens qui tournent aux Xanax et aux Prozac fassent des procès.
Qui ne sont pas des sportifs de haut niveau.
Fassent des procès à des sportifs dopés.
Certes, mais ce qui est assez fascinant, je trouve, dans ce que vous nous dites et ce qu'on peut lire dans votre essai, Olivier Alambon, c'est qu'il y a à la fois toute cette pression sociale, cette pression économique, cette pression médiatique qui pousse les coureurs et les autres sportifs, par exemple, à se doper. Et puis, il y a toute cette expérience humaine, trop humaine, d'essayer de découvrir quand on a toucher à quelque chose, d'y revenir pour découvrir un au-delà. Et c'est le cas aussi chez les artistes. On ne va pas parler des rockstars, mais Bernanos, puisqu'on est dans Partir en livre avec vous, disait que lui, il écrirait toujours à la terrasse des cafés si la République ne taxait pas aussi impitoyablement les alcools. Donc il devait écrire dans un certain état. Judith Gueffier, c'est quoi votre dopant à vous pour dessiner ?
Beaucoup de café, des litres de café. Mais après, c'est les échanges, en fait, les échanges avec les gens. C'est un métier assez solitaire. Et trop de solitude, moi, ça me
Vous n'avez pas un peloton, vous n'avez pas un atelier comme de nombreux illustrateurs qui se
en
mettent
fait,
en équipe justement pour
suis,
se tenir chaud?
C'est vrai qu'il y a des grands ateliers collectifs où parfois ils vont être 6, 7, 8. Moi je partage mon atelier avec une photographe, mais ça amène aussi à avoir d'autres discussions, ce qui est plutôt chouette aussi. Du coup on fait aussi des projets ensemble, ça peut m'amener à faire autre chose que ce que je peux faire avec l'édition jeunesse et avoir un autre regard, voilà. Mais voilà, moi, ce qui peut me doper, c'est l'énergie qui va venir de l'extérieur, par des rencontres que je vais faire, par les ateliers que je vais faire avec des groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Et puis, après, toutes nos passions personnelles, évidemment.
Un conseil de dopage pour les enfants, avant que, justement, on s'approche de cette manifestation Partir en livre, Marc Dagneau ?
Les fraises Tagada et la lecture.
Alors, Olivier Arlambon, votre récit s'intitule donc « Le coureur et son ombre ». Il est publié chez Premier Parallèle, mais voici donc que la meute des poursuivants vous a rattrapé. Regardez sous votre coude, elle s'apprête à prendre le contrôle de la course, à suivre dans la seconde partie de notre grande table d'été, la manifestation qui a elle aussi des airs de grande boucle Partir en livre, donc avec Judith Gueffier, Marc Dagneau et Vincent Monadet.
Mon Dieu, où est ce peloton ? Mon Dieu, où est ce peloton ? Quel sacré sale tour que ce Tour de France ! C'est un tour de force, un vrai tour de cochon. Et voilà mon bidon vide, le soleil est lourd, mais gardons confiance, malgré mon entorse et cette crevaison. J'ai la trouille dans le bide. Bon Dieu, où est ce peloton ? Bon Dieu, où est ce peloton ?
Tiens, je connais cette région, ces collines, car j'ai failli pour Claudine louer par ici une maison.
Bon Dieu, où est ce peloton ? Où est ce peloton? Mais je pense trop à n'importe quoi. Le patron dirait Pierrot, concentre-toi. Oh merde, mon guidon bouge. Tiens, des gens me crient, vas-y mon kiki. Oui, mais d'autres rient, c'est ma fête aujourd'hui.
Je suis la lanterne rouge.
Bon Dieu, où est ce peloton ? Bon Dieu, où est ce peloton ?
Une moto, un gosse essuie ses lunettes. On m'a passé une musette. Et puis regarde mon bidon.
Bon Dieu, où est ce peloton ? Bon Dieu, où est ce peloton ? Après tout, personne va me le reprocher. Je commence à flancher.
Je serai bien dans mes pantoufles.
Quel sacré sale tour que ce Tour de France. C'est un tour de force, un vrai tour de cochon.
Tiens, voilà mon second souffle.
Je vois là-bas le peloton. Je vois là-bas le peloton. Je vois là-bas le peloton. Je vois là-bas le peloton.
Bon Dieu, où est ce peloton ? Les frères Jacques, en 1969, une chanson rien moins que littéraire.
France Culture, la grande table d'été, Martin Kénéen.
Pour moi, les enfants, ce sont des petits adultes. Ils savent d'où viennent les bébés, mais le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où viennent les adultes. Il ne faut pas les sous-estimer. Les enfants, ils ont leurs opinions. Les opinions des enfants, il faut les respecter. Absolument, il faut leur demander. Moi, c'était mon grand drame. J'ai vraiment affreusement souffert comme enfant. Parce que j'étais le plus jeune de mes frères et sœurs. Ma sœur aînée avait 10 ans de plus que moi, et mon frère 8 ans de plus que moi. Et moi, j'étais le jouet de la famille. J'essayais désespérément ce qu'on écoute. J'avais déjà une opinion. J'avais déjà des opinions à l'époque, à l'âge de 7 ans, 8 ans, que j'ai gardé toute ma vie. Je trouve non. D'ailleurs aussi, pour le Conseil de l'Europe, j'ai rédigé un texte qui est le droit des enfants, où je dis aussi qu'ils ont le droit d'être punis.
Tommy Ungerer, grand illustrateur et auteur d'ouvrages pour la jeunesse, qui considère les enfants comme des adultes et qui ont le droit donc d'être punis. C'est ce qu'on découvre aussi, ce que vous poursuivez à votre façon, Vincent Monadet, Judith Gueffier, Marc Dagneau, dans le cadre de ce Partir en livre qui s'est ouvert hier et qui se déroule jusqu'au 30 juillet, cette grande fête du livre pour la jeunesse, initiée par le ministère de la Culture et par le Centre National du Livre que vous présidez, donc Vincent Monadet. Il y a un parc d'attractions littéraires à Pantin, en Seine-Saint-Denis, et puis il y a des événements un peu partout en France, à Bordeaux, à Strasbourg, à Avignon, à Arras, à Nouméa, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Belfort, à Marseille, j'en passe. Et comme les cyclistes aiment se faire des pancartes, comme on dit quand on entre ou quand on sort d'une ville, c'est plutôt une palissade que vous avez érigée à Pantin, dans ce parc d'attractions littéraires, Judith Gueffier, Marc Dagneau.
Oui, alors ça fait partie d'une grande scénographie qui a été pensée par Olivier Douzou. Ce parc d'attractions littéraires, il a été co-organisé par le CNL SLPJ 93, qui fait le salon du livre jeunesse à Montreuil. Donc ils font pas que le salon du livre, ils font vraiment des choses toute l'année sur le terrain. Ils envoient par exemple des auteurs dans les collèges de toute la Seine-Saint-Denis. Voilà, ils font plein de choses.
Ils érigent aussi des palissades.
Ils érigent des palissades. On nous a proposé, donc on est trois sur ce projet avec Carole Scheck.
C'est Carole Scheck qui a eu l'idée,
Marc Dagneau.
Avec son énergie pétillante qui est incroyable. Bon, elle n'est pas avec nous parce qu'elle n'aime pas parler, mais...
Elle préfère dessiner, donc.
Mais c'est grâce à elle, c'est elle qui nous a entraînés dans cette aventure.
Mais alors, c'est une palissade végétalisée, puisque le jardin est au cœur de ce parc d'attractions littéraires.
C'est une palissade en bois, et on a travaillé en amont, on a fait 15 mètres de fresques à l'encre de Chine sur papier blanc avec des ajouts de vénilia de couleur. Et puis hier, on a fini les 5 mètres restants, il y aura 20 mètres en tout à la fin du parc, et les enfants et les visiteurs sont invités à la colorier.
20 mètres de coloriage géant, mais voilà. Ça veut dire que Judith Gueffier, dans l'enfance, vous coloriez vos livres illustrés, je sais pas, les aventures de Delphine et Marinette ou des choses plus contemporaines, quand les illustrations étaient en noir et blanc?
Non, pas vraiment. J'ai toujours dessiné et voilà, ça a toujours fait partie de ma vie. Là, ce qui était sympa hier, dans ces 5 mètres qu'on a terminé...
Hier, c'était l'inauguration.
Voilà, et donc on a accroché nos grands rouleaux de papier sur cette grande palissade. Et donc, il y avait effectivement 5 mètres qui restaient en blanc. Et donc, on l'a complété, on l'a fini devant les enfants et avec les enfants. À un moment donné, voilà, ils ont commencé à venir mettre de la couleur, mais ils nous suggéraient aussi... Voilà, moi j'ai envie de voir telle chose émerger dans ton dessin, est-ce que tu peux me faire ça? Et donc on a un peu fini aussi avec eux et dans le dialogue avec eux.
Et qu'est-ce qui a pu vous être suggéré alors, par exemple?
Beaucoup de petits papillons, c'est vrai. Non, voilà, le thème,
c'est... Tu les dessines très très bien, les papillons, c'est pour ça.
Là, donc l'idée, c'était le jardin imaginaire. Donc nous... On s'est vraiment fait plaisir. C'est vrai qu'on était dans l'idée du jeu. Quand on a fait ces 15 mètres de dessin, on s'est retrouvés tous les trois et on s'est vraiment laissé aller à dessiner, à parfois commencer un trait pour que l'autre le termine. C'est vraiment un travail à six mains. Et surtout dans le plaisir, en fait, parce que c'est ça qui passe auprès des enfants et du public. Parce que c'est pas spécialement pour les enfants. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'une famille entière puisse venir le faire du
tout petit.
Donc
les enfants sont des adultes, comme disait Tommy Ungerer, voilà. Et les adultes sont des enfants.
Bien sûr, et nous, on invite vraiment tout le monde à participer à chaque fois qu'on fait des actions de ce type. La grand-mère, le maire, tout le monde est invité à venir dessiner. Et les plus petits à qui on dit non, tu vas déborder, non, mais...
Déborder, ouais. On a compris.
Je veux dire, c'est vrai qu'on a tendance à croire que la littérature jeunesse, c'est que pour les enfants. Mais que moi, ce qui m'intéresse quand je fais des livres, c'est de faire des endroits où tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y en a, enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits de ce type-là. Et moi, les livres jeunesse, c'est ça qui m'intéresse. C'est un endroit où on peut partager entre les générations, où les parents ont le plaisir à lire ça avec les enfants, où les enfants ont le plaisir de le lire avec les enfants. Donc il y a une notion de partage. Et c'est vrai que ce type d'action, c'est la continuité de ça. Et je crois que c'est super important. Enfin, moi, en tout cas, si je fais de la littérature jeunesse, même si je fais pas que ça tous les jours, c'est pour ça. Et ce type d'expérience, en plus de partager avec le plaisir, enfin, c'est ça qui est bon de partager, c'est de partager le plaisir de toute façon. Et que là, ça s'est fait. Moi, je suis un peu Judith et Carole ont l'habitude de dessiner comme ça. Moi, qui suis plus un télo, je sais pas quoi. D'un coup, prise de risque, se lâcher vraiment.
C'est et parce que t'es cycliste, ça. Mais alors Vincent Monnadet, on l'entend, et d'ailleurs il y a peu sur France Culture était organisée une grande journée pour le livre. Les librairies sont aussi ces lieux de partage, ces lieux de rencontre et de conversation à nul autre pareil. Dans les bibliothèques, dans les librairies, il y a une parole et une rencontre entre les différentes générations qu'on trouve plus dans l'espace public aujourd'hui. Vous avez été libraire, je l'ai rappelé, aujourd'hui vous êtes président donc du Centre National du Livre. Et ce parc d'attractions littéraires qui est donc à Pantin, Place de la Pointe, c'est un peu le moyeu de cette grande roue, de cette grande boucle. Qu'est cette manifestation, cette fête Partir en Livre, qui réunit l'ensemble du territoire français.
Oui, il y a 4000 événements. Territoire français métropolitain et dom-tom. Mais ils ont un peu tout dit, en fait. Cette fête, elle est destinée à provoquer la rencontre entre un enfant et un livre. Moi, j'ai la chance d'être un lecteur, un grand lecteur. Et en fait, tout ce qui relève de la tristesse de la vie courante, quotidienne ou dramatique à certains moments, le livre le compense dans ma vie depuis toujours. Et c'est le but, je crois, qu'on avait avec cette fête à l'origine, c'était de donner cette chance à tous les enfants. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui sont très éloignés du livre, parce qu'il y a des enfants qui sont en problème d'apprentissage de lecture, parce que... Mais il n'y a pas d'exemple de rejet. Je le dis souvent, quand un enfant ne sait pas lire, il n'y a aucun exemple de rejet du livre par un enfant. Ça n'existe pas. Ça peut apparaître quand la lecture arrive et qu'elle se passe mal. Mais sinon, un enfant ne rejette pas le livre, il adore ça. Et comme l'a dit Marc très justement, cette fête était censée être une fête pour les enfants au départ. Et ce qui nous a sidérés, c'est que c'est une fête pour la famille. C'est-à-dire que le livre est cet élément de partage magnifique à travers la lecture du soir. Et moi je dis aux gens, n'arrêtez surtout pas de lire des livres quand vos enfants savent lire. Il faut continuer parce que ce moment privilégié d'abord va les attacher à la lecture définitivement, les arrimer à la lecture définitivement. Et vous n'aurez pas beaucoup de moments privilégiés comme ça avec vos enfants. Et l'installer au cœur de l'été, travailler avec, comme l'a rappelé Judith, avec le Salon du Livre de Montreuil, enfin le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui travaille à l'année et qui invente à l'année ce qu'on peut faire autour de la littérature jeunesse de façon extrêmement brillante, ça permet de provoquer cette rencontre autour du livre. À Marseille, la première année, on a eu des mamans qui ne parlaient pas français, ne lisaient donc pas le français, évidemment, et qui venaient nous voir pour qu'on les aide à choisir des livres et qui faisaient assister aux ateliers de pop-up ou d'illustration avec leurs enfants, parce que là, pour le coup, l'image a un langage qui est universel, c'est ce qui est fabuleux, même s'il faut apprendre à la décrypter. Et on sentait qu'on provoquait une rencontre entre la mère et l'enfant sur un endroit où elle se passait pas d'habitude, puisque la mère ne pouvait pas lire, en tous les cas en français, à l'enfant.
Oui, parce qu'il n'y a pas que de la lecture, hein. Il y a évidemment ces ateliers graphiques, à l'instar de la palissade de Carole Chez, Judith Gueffier et Marc Dagneau, et puis il y a les bibliobus, les balades comptées, les concerts dessinés, les goûters littéraires, les lectures au bord de la piscine, enfin tout ça, voilà, on peut découvrir ça sur Internet très simplement pour découvrir ce qui est le plus près de chez vous et ce qui se passe. Mais vous parlez de la dimension de consolation de la lecture, Vincent Monnadet, quand la vie est si difficile. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence et peut-être la supériorité du cyclisme à vos yeux, Olivier Arlambon, parce que vous osez dire que la lecture nourrit, mais elle ne rend pas plus malin, alors que la course cycliste, oui. Et pourquoi ? Parce que la course cycliste apprend à vous détromper. Alors on se trompe, on se berce d'illusions avec les Trois Mousquetaires en lisant l'été. Mais heureusement, si on fait une course cycliste...
Il y avait là évidemment une petite provocation qui visait à introduire l'intelligence des coureurs eux-mêmes. Et puis parce que moi j'ai fait cette expérience du...
Vous êtes lecteur vous-même,
du type
vous nous en
qui a 19
cachez
ans,
pas.
Qui débarque dans les pelotons et qui pense que parce qu'il a lu trois livres, il va comprendre plus vite que les autres. Et c'est l'inverse, ça m'a empêché... Enfin, j'ai eu affaire à des gens infiniment plus malins que moi. Voilà, mais... Quant à la lecture ou au goût de la lecture, c'est, j'ai le sentiment que c'est tout ce que je pourrais laisser à mes enfants. Pour ce qui est du patrimoine, c'est mal barré. Donc, j'espère que par
et
exemple.
Votre première bicyclette aussi, puisque vous l'avez perdue, je crois.
Oui, oui, absolument. Oui, on l'a volée. Et puis, j'ai le sentiment d'avoir appris à lire sur le tard, comme je disais tout à l'heure. J'espère que ma fille, qui a 18 ans, aura des éblouissements comme j'ai eu. Et j'espère que je peux la contaminer. Et puis, j'ai aussi un fils qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et à qui je commence à lire des histoires. Et en effet, si l'histoire est bonne, on peut soi-même trouver pour lui raconter de façon intéressante à lui et partager quelque chose avec lui, et ben il faut l'adopter soi-même, l'histoire. Donc je me passionne pour Petit Loup, ouais, aussi. Ouais.
Moi, j'achète surtout des livres, des romans policiers et des choses comme ça.
Ton âge ?
Jacques, personnage, 12 ans.
Quel genre de roman policier ? Parce que je ne vois pas beaucoup de romans policiers sur les rayons de cette librairie.
Enfin, il me suis peut-être mal exprimé, mais surtout...
D'aventure.
Oui, c'est ça.
Émile et les détectives.
Oui, je l'ai lu, celui-là.
Tu aimes les livres suspense. C'est
oui,
ça.
C'est ça.
Voilà, c'est ce que tu recherches.
Marthe dans son présent. Moi, j'aime mieux lire les livres d'aventure avec suspense aussi. Mais j'aime mieux que les héros soient des enfants de mon âge. Ou plus vieux, parce que c'est plus intéressant, il peut faire plus de choses.
Le petit Jacques, à la découverte des jeunes lecteurs, c'est une archive de 1962 qui aime les romans policiers, mais on lui dit non, c'est plutôt l'aventure. Et le suspense, ça revient peut-être au même. Marc Dagneau, il y a des lectures, peut-être mettant en scène des personnages de votre âge au moment où vous les avez découvertes, qui vous ont donné envie de dessiner, puisque vous êtes à la fois auteur et dessinateur-illustrateur.
Moi, le premier livre pour enfants qu'on m'a mis entre les mains, c'était Oui, oui, la corne d'abondance. Et j'ai eu l'impression qu'on me prenait pour un con. Et du coup, j'ai arrêté la littérature jeunesse jusqu'à ce que j'en ai fait. Quoi.
C'est pour ça que vous dessinez, vous avez arrêté la lecture pour de bon.
Non, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, si j'écris, c'est parce que j'ai dessiné avant. Enfin, je veux dire... C'est le dessin, enfin l'illustration. Enfin, je commençais par faire la bande dessinée, après je suis venu à l'illustration, et après je suis devenu auteur. Mais c'est le dessin, ça a été ce qui m'a sociabilisé. Ouais.
Et alors on entendait ce jeune Jacques dire dans cette archive que c'était le suspense, l'aventure, l'enquête qui aiguillonnait son désir de lecture, Judith Gueffier. Qu'est-ce qu'il y a comme suspense, comme aventure à dessiner un texte? Parce que j'imagine que vous travaillez sur des textes préexistants et que c'est ensuite à vous d'oser les transformer en images.
Oui, voilà, en fait, moi je travaille surtout avec donc des auteurs qui me confient leurs manuscrits. Parfois, c'est aussi les éditeurs qui vont me proposer un texte. Voilà, ça m'a fait penser à ton univers graphique. Qu'est-ce que t'en penses ? On est libre aussi de ne pas le faire. C'est pas forcément une histoire de qualité de l'écriture, c'est vraiment une histoire de se projeter dans cette histoire.
Il y a un danger, il y a un risque, puisqu'on parle d'enquête criminelle. Il y a quelque chose de, sinon de criminel, de transgressif pour parvenir à trouver des images ?
Moi, je pense ça. Je suis plutôt dans... En fait, quand je lis un texte pour là, c'est souvent la première lecture, je vais décider si je vais le faire ou pas. Parce que tout de suite, c'est un peu comme si je rentrais dans un film, si je vois les acteurs, que je suis dans cette histoire, que je vois les décors, si j'ai déjà des images en tête, si je ressens leurs émotions. Là, je suis partie dans l'histoire et j'ai envie de le faire. Et ça, c'est très nécessaire. Et après, du coup, je suis plutôt dans le jeu, dans l'excitation, mais je me sens pas...
En fait, tu pars en livre tout le temps, quoi.
Ouais.
C'est ça. Et on le comprend, partir en livre. Donc, c'est le nom de cette grande fête partout en France et notamment avec ce parc d'attractions littéraires à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Ça peut être quelque chose de dangereux. C'était Voltaire qui parlait des horribles dangers de la lecture. Et il n'y a pas que Voltaire qui en a parlé.
Nous avons tout de même l'exemple d'une bande de jeunes garçons de 12 à 15 ans qui, intoxiqués véritablement par ces journaux, ont formé un véritable gang. Je ne veux pas citer ni l'établissement ni la ville, mais je m'en porte absolument garant. Peut-être que cette presse, évidemment, ne fera pas de tous les garçons des gangsters ou des bandits, mais en tout cas, je suis persuadé que ça ne peut aboutir qu'à abêtir la jeunesse française.
Paul Fauché.
Je ne suis pas très au courant de la presse enfantine actuelle, mais de confiance, je crois qu'elle est détestable. Aussi, le seul problème qui personnellement me préoccupe, ce sont les conditions, c'est le problème des conditions même de la création, de la production du livre, de ce que nous appelons l'outil éducatif, et plus spécialement de tout ce qui touche au livre. Je crois que les règles de l'outil éducatif s'appliquent d'ailleurs aussi bien au livre qu'au journal d'enfants, mais je suis persuadé qu'actuellement les conditions morales, les conditions littéraires, les conditions artistiques, les conditions économiques d'une presse enfantine saine en France ne sont pas réalisées.
Alors ça, c'était en 1948, quand la presse dite enfantine, qu'on appelle plus volontiers jeunesse aujourd'hui, était considérée comme abêtissante et détestable. C'est un événement abêtissant et détestable que vous avez à plaisir organisé, Vincent Monadet, avec Partir en Livre.
Ah oui, d'autant plus que nous, on est complètement transgressifs, c'est-à-dire que on a décidé qu'on ne considérait pas qu'il y avait de... On considère... Nous, qu'il y a des bons et des mauvais livres, et ce que fait le travail, à mon avis, essentiel du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, c'est de promouvoir quelque chose qu'on estime être de qualité. Mais pour ce qui est de la lecture des enfants, on considère pas qu'il y a des bons ou des mauvais livres, on considère que les enfants doivent lire. Évidemment, il y a des rôles de médiateurs pour les orienter vers de bons livres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils lisent, y compris, comme disait Pénac, de mauvais livres. Quand j'étais libraire, il n'y avait rien de pire que pour moi, qu'un gamin qui prenait deux BD, qui courait tout excité à la caisse et qui tombait ou sur ses parents, ou plus souvent sur ses grands-parents, qui avait cette phrase « Ah non, 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 j'avais dit que je t'achetais un vrai livre ». Mais c'est insupportable. Moi, je donne peut-être, je sais pas, 70% de la production littéraire annuelle pour un album de Gottlieb, quoi. Donc,
Olivier Alembon, vous avez le souvenir, vous, de mauvais livres qui ont pu vous nourrir et vous marquer à vie ?
De mauvais livres qui m'auraient nourri, non, je les laisse tomber, les mauvais livres. Mais donc, je n'en ai lu que de bons. En revanche, la BD Gottlieb dont on vient de parler, oui, ça, j'en ai des souvenirs très précis. Ça m'a beaucoup occupé. Et San Antonio aussi. Ça, j'ai vécu avec San Antonio toute mon adolescence.
Ouais. Marc Dagneau, on entendait dans ses reproches qui étaient un peu de saison à la fin des années 40 et dans les années 50, critiquant vertement la presse jeunesse, les illustrés, les comics américains et toute la violence qui déferlait sur la jeunesse de France en particulier. Des échos que vous avez pu de ce que vous avez pu essuyer comme critique avec la publication aux éditions du Rouergue de Tous à poil en 2011. Il n'y avait pas de problème en 2011, mais en 2014, tout d'un coup, les temps ont changé et ce livre que vous avez signé. Vous aviez signé avec Claire Franek, a été critiqué.
Oui, il a été surtout instrumentalisé.
Instrumentalisé à des fins politiques. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose de faire quelque chose de transgressif et d'offrir aussi la question du sexe, toute crue
Mais on parlait pas de sexe
aux
dans
enfants.
Tout ça.
Non, non, tout ça, c'est pas du tout transgressif. Attention, hein. c'est ça qui est pire, c'est qu'il y a des bouquins.
Il y a des hommes et des femmes de tous âges qui se déshabillent pour aller se baigner.
Chez Thierry Magnier, il y a des livres beaucoup plus transgressifs.
Oui, il y a des choses qui ont été beaucoup plus, enfin, qui parlait des livres qui parlaient de sexe aux enfants, notamment Au sourire qui mord, qui allait beaucoup plus loin. Nous, c'est une petite bleuette, tout ça poil, quoi.
Non, mais est-ce qu'il n'est pas important aussi d'aborder ces questions
Bien sûr,
pour les enfants, pour les prennent au sérieux.
C'est super important de parler d'amour aux enfants. Enfin, moi, je crois que c'est de là d'où ils viennent, quoi. Et c'est hyper mystérieux. Et trouver le bon ton, la manière d'aborder ça pour dire aux enfants, bah ouais, tu viens de là, tu viens de l'amour ou du manque d'amour, ou je sais pas. Mais parler de ce problème de l'origine, moi, ça, je trouve ça passionnant et je bosse là-dessus tout le temps.
Mais Tous à poil, c'est
Vincent Monadet.
Je suis désolé, excusez-moi, je dis, c'est vraiment un texte sur, j'insiste, le fait que nous sommes tous égaux, c'est-à-dire que on enlève les habits aux gens, il y a des gens qui sont petits, gros, noirs, blancs, femmes, hommes, on finit par le chien qui est à poil naturellement, parce que de toute façon, il est à poil.
On finit pas par le chien.
Non, c'est vrai, on finit par la grande réunion sur la plage. Ça montre simplement qu'on a tous un corps, et qu'une fois nu, une fois débarrassé de tous les oripeaux qui le font, on a tous un corps humain.
Mais Judith Gueffier, pardonnez-moi de chercher la petite bête, mais on dit que par exemple les contes dont la jeunesse est friande sont pleins de violence, de monstres, de cruauté et de sexe en sous-texte. Vous, vos dessins qui sont en apparence si délicats, avec des couleurs comme ça si douces, ils parlent tous de sexe eux aussi ?
Non, mais...
Méfiez-vous de ces grenouilles.
Et de ces papillons.
Non, mais là où j'ai envie de réagir, c'est que souvent les personnes qui vont émettre ces formes de jugement, comme ça, qui vont s'emparer de l'œuvre d'un artiste pour servir leurs propres intérêts politiques et passer certains messages qui, moi, m'agressent. En fait, ils sont émis par des gens qui, pour moi, ne connaissent pas le terrain et tout ce qu'on peut y vivre. Parce que là, on parle de partir en livre, mais toute l'année. Toute l'année, on va dans les écoles.
Oui, on a parlé du salon de Montreuil, voilà. Mais il y a d'autres salons un peu partout en France.
La France est tissée d'associations, du réseau de lecture publique, de bénévoles en quantité folle qui se battent pour faire vivre le livre jeunesse en France. Et nous, toute l'année, on voyage dans toute la France et à l'étranger pour rencontrer, voilà, de la maternelle au collège, au lycée, dans les maisons de retraite, partout où on va avec nos livres et les livres des autres. On lit ensemble, on discute. Moi, j'aime bien demander aux enfants qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Voilà, même dès les plus jeunes, tu as le droit d'avoir ton avis, qui ne va pas forcément être le mien. Et en fait, les gens, voilà, qui ont ce type d'avis très tranché, comme ça, moi, je pense que c'est des gens qui sont complètement coupés de la réalité et qui devraient peut-être venir plus sur le terrain, voir ce qui s'y passe. Oui. Parce qu'en fait, on vit des choses magnifiques au quotidien dans ces rencontres.
Et le pire d'ailleurs avec la lecture, si on revient à Voltaire et ses horribles dangers de la lecture, c'est que ça donne non seulement envie de créer, mais aussi de se forger un avis.
Et puis moi je trouve que
heureusement que c'est dangereux. Et heureusement que c'est dangereux.
Et puis c'est un outil...
Ce que vous disiez par rapport au risque, l'idée de se dépasser, de s'enrichir, d'aller plus loin.
C'est un outil de social aujourd'hui pour moi, de lutte un peu, parce que moi je suis... clairement offensée par certains propos. J'ai pas envie de dire son nom, hein. Ni ceux des autres, de certains politiciens qui divisent et murignent. Nous, on fait des ateliers pour que les gens se rencontrent, pour créer des bulles où les gens qui sont pas forcément censés se rencontrer vont faire des choses ensemble. Le faire ensemble, c'est se connaître. C'est pour ça qu'on...
Et ça passe par la
on
lecture.
On aime mélanger les publics. Là, partir en livre, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et au quotidien, nous, on est engagés sur le terrain et on fait aussi, par exemple, quotidien, des choses avec les réfugiés dans la rue. On dessine avec eux, avec les mineurs isolés. Voilà.
Vincent Monadé.
Il faut préciser, déjà, pour les auditeurs, hein, qu'il y a une loi, qui est la loi de 49, qui protège les publications jeunesse, qui protège le jeune public. Et de toute façon, toute parole politique. Politicienne, mais politique pas au sens noble du terme, pas la vie de la cité. Toute parole politique sur une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, doit être considérée comme forcément suspecte et dangereuse. Et voilà, dans les bibliothèques, avec les auteurs, dans les librairies, il y a des gens qui ne font que transmettre ce qui est peut-être un des plus grands plaisirs de la vie, comme la bicyclette, comme le disait Olivier, un objet par ailleurs parfait, le livre, qui ne peut pas évoluer, qui n'évolue pas, parce qu'il est parfait. Et ils transmettent cette passion, et cette passion rend les gens, à mon sens, plus ouverts aux autres. Entre lecteur et électeur, il y a une seule lettre de différence.
Olivier Alembon, d'un mot.
Oui, je voulais revenir à la question de savoir comment, s'il y a jamais une façon de savoir comment il faut parler d'amour aux enfants, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester un adulte crédible à leurs yeux. C'est-à-dire que si on leur en parle d'une façon, évidemment, je suis pour que parler d'amour ce soit doux et pas trop brutal, etc. Mais si on leur en parle d'une façon qui est complètement déconnectée de la réalité et du reste de la société, on fait, d'une part, on fait enfants schizophrènes et surtout, on passe pour être un mauvais parent.
Mais alors, disons la vérité aux enfants pour conclure, en revenant à Voltaire et ses dangers de la lecture, le pire danger de la lecture, eh bien, c'est qu'elle donne envie de lire, comme sans doute le pire danger de la course cycliste, c'est de donner envie de refaire une autre course cycliste. Merci beaucoup à tous les quatre. Judith Guéffier et Marc Dagneau, vous êtes coupables de cette palissade. Donc à colorier en famille à la place de la Pointe à Pantin dans le
jusqu'à lundi.
Parc d'attractions littéraires jusqu'à lundi dans le cadre de cette grande manifestation, cette grande boucle qu'est Partir en livre un peu partout en France. Merci Vincent Monadé d'être aussi coupable à initier le cerveau de cette entreprise et de ce complot. Olivier Alembon, votre essai c'est Le coureur et son ombre. Il est publié chez Premier Parallèle. La Grande Table d'été est une émission préparée par Laure Chastan, Lily Cornaer, Anne-Catherine Lochard, Aurélie Marsais, Claire Poinsignon et Julien Rosa. Elle est réalisée par Delphine Lemaire avec aujourd'hui à la technique Pierrick Monsigny. Réécoute, podcast et commentaires sur franceculture.fr, Facebook et Twitter. Et demain, la Grande Table d'été sera en public, en direct, à Metz, dans le cadre du Festival Constellation. Nous vous donnons rendez-vous, si vous êtes Messin, Messine ou de passage, dans les salons de l'Hôtel de Ville à 12h45.